Le premier plateau va parler de cosmétiques bio. Nous avons avec nous les représentants de la marque Velleda, des cosmétiques dits bio, avec Françoise Kessler, directrice du marketing. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi avec nous Gilles Lamatte, responsable environnement de la marque Velleda. Bonjour.
Bonjour.
Tout de suite la parole avec Adrien Lepage.
Bonjour Françoise, bonjour Gilles.
Bonjour.
Adrien Lepage, donc, la marque Velleda existe depuis 1921, vous fêtez cette année vos 90 ans. Bon anniversaire tout d'abord.
Merci.
Est-ce que en quelques mots, en guise d'introduction, vous pouvez nous présenter un petit peu la marque, ses origines, ses fondations, son fondateur ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que nous sommes très, très fiers de pouvoir fêter cette année nos 90 ans d'existence. C'est une grande fierté pour nous. L'histoire de cette marque remonte au début des années 20, où un certain nombre de médecins et de pharmaciens ont souhaité développer une approche différente de la médecine qui tient compte finalement de l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire ne pas simplement s'intéresser à un symptôme, mais s'intéresser à l'individu, que ce soit du point de vue physique, mais également psychique. Et ils ont donc demandé à un philosophe qui s'appelle Rudolf Steiner de les aider à développer un certain nombre de médicaments qui tient compte de l'observation de la nature et de tous les processus qui sont à l'œuvre dans le monde végétal et le monde minéral pour finalement utiliser ces vertus curatives au bénéfice de l'être humain. C'est donc l'origine des laboratoires en 1921, avec tout d'abord la partie médicaments qui était très très présente. Et puis très vite est également arrivée la cosmétique, avec dès le début des années 20, une dizaine de produits, essentiellement des produits capillaires, des produits pour le bain également. Aujourd'hui, nous fabriquons plus de 4000 références de médicaments et nous commercialisons également à peu près 80 produits de cosmétiques naturels et bio. Qui remporte un succès croissant depuis pas mal d'années maintenant.
D'accord. Pour revenir à la fondation de la marque, Rudolf Steiner, c'est bien ça, c'est l'inventeur de la biodynamie.
Oui.
Est-ce que vous pourriez préciser un petit peu pour nos auditeurs ce qu'est la biodynamie ?
Alors, on parle beaucoup de l'agriculture biologique, qui est une agriculture que l'on peut qualifier par l'absence de pesticides et de produits phytosanitaires. L'agriculture biodynamique va un cran plus loin parce que non seulement elle renonce également à toutes ces substances chimiques, mais elle va utiliser des substances nutritives pour alimenter la terre, pour stimuler sa fertilité. C'est ce qu'on pourrait appeler une médecine de la terre, si vous voulez, pour vraiment stimuler toutes ces propriétés nutritives, en fait.
Vous parlez de médicaments et vous parlez de produits alors pour le bain, pour des shampoings, des choses comme ça, c'est ça. Est-ce que vous pensez être les précurseurs des cosmétiques bio, parce que 1920, ça date. Est-ce que le terme bio existait quand on sortait des produits comme cela ?
Alors, précurseurs, oui, nous l'étions. Pionniers également. Nous sommes parmi les premiers à avoir créé des produits de cette nature-là. Le terme bio, à l'époque, n'existait pas. Le terme bio est arrivé depuis à peu près une dizaine d'années sur le marché français. Le terme naturel était beaucoup plus utilisé à l'époque. Aujourd'hui, la société a évolué. On a beaucoup parlé au niveau de l'alimentaire, de l'agriculture biologique. C'est là que tout a démarré. Et c'est venu par la suite sur la cosmétique.
Qu'est-ce qui fait la distinction entre un médicament et quelque chose qui, je ne sais pas, est-ce qu'on parle de complément alimentaire ? Alors peut-être pas pour les cheveux. Quelle est la différence ? Vous avez commencé avec des médicaments. Il y avait un principe actif, c'était distribué en pharmacie. Qu'est-ce qui distingue les médicaments de ce qui est en vente libre ? Moi, je connais la marque Velleda pour ce qui est accessible au grand public, finalement, sans ordonnance. Est-ce que vous produisez des médicaments délivrables sous ordonnance ? C'est ce que vous
Bien
voulez
sûr.
Dire, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Nous avons toute une panoplie de médicaments homéopathiques, plus de 4000 références à peu près, sur prescription, donc qui ne sont pas forcément de la vente libre. Nous avons une petite gamme de ce qu'on appelle les OTC. Ça, ce sont des médicaments qu'on peut acheter directement sans ordonnance. La différence avec un cosmétique, c'est que ça n'a pas du tout la même vocation. Un complément alimentaire non plus. Pour un médicament, il faut une autorisation de mise sur le marché, il faut toute une batterie de tests autour, d'analyses, d'études, alors que pour des compléments alimentaires, ça ne répond pas du tout à la même législation, en fait.
Et aujourd'hui, quels sont vos produits phares, alors ?
Alors en cosmétique, je vous parle plutôt de la cosmétique parce que c'est là vraiment qu'on a des taux de croissance qui sont très importants. En termes de produits phares, nous avons l'huile de massage à l'arnica, qui est un produit très connu, notamment des sportifs, qui existe dans notre gamme depuis 1939, donc c'est un produit très ancien. Nous avons également le jus de bouleau, qui est un complément alimentaire. Et nous avons également un produit pour bébé, qui est une crème lavande corps et cheveux, qui est un produit qui a été lancé en 2005 et qui connaît un essor vraiment fulgurant.
En quelques chiffres, quelle est la part justement de, pour revenir sur les compléments alimentaires et la partie peut-être pharmacie, quelle est la part que représente ceci dans l'activité de Véleda ?
Alors, la partie cosmétique représente aujourd'hui à peu près 70% du chiffre d'affaires. Dans ces 70%, 5% à peu près sont les compléments alimentaires et les 30% restants, ce sont les médicaments.
D'accord. Actuellement, sur l'ensemble de vos produits, vous êtes labellisé. Quel est le label que vous avez choisi, si on peut dire choisi pour un label ? Et comment vous travaillez avec eux ? Pourquoi avoir fait le choix de ce label ?
Alors, nous sommes parmi les premières marques françaises à avoir obtenu un label. C'était en 2001. Nous étions à l'époque partenaires du premier label qui a été créé, qui était le BDIH, qui est un label allemand. Est arrivé par la suite le label français, qui était le label Cosme Bio. Nous étions déjà labellisés BDIH, donc nous avons choisi de rester sur notre ligne de conduite avec BDIH. Et puis, il y a 3 ans, nous avons fait le choix de basculer sur le label qui s'appelle Natru, qui est un label qui a une vocation internationale et qui a également pour idée de vraiment être extrêmement transparent vis-à-vis des produits.
On va revenir sur les labels. Je suis tombé, quand j'ai voulu aller voir un petit peu votre site et préparer cette émission, je suis tombé sur un site en anglais, c'est volontaire ?
Pas du tout. Si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes également dans une dynamique de construction internationale au niveau de la marque, de regrouper des choses. Nous avons un site bien français qui donne beaucoup d'explications.
Alors, c'est que je ne l'ai pas trouvé tout de suite.
Vous ne l'avez pas trouvé tout de suite.
D'accord. Alors, sur les labels, justement, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orienté plus vers un label que vers un autre ? Est-ce que c'est... c'est le marketing, ça, je suppose. C'est-à-dire donner de la crédibilité à la marque pour les consommateurs, des vrais critères sérieux de référence. Vous avez abandonné BDIH, il devenait plus sérieux, c'est ça ? Ou...
Alors,
quels sont les critères que vous retenez au départ dans votre marque pour vous orienter sur un label ?
Alors, il est vrai que le label est avant tout un outil pour montrer aux consommateurs qu'il y a une caution derrière. Sachant que nous, sans vouloir paraître prétentieuse, la marque Véleda en tant que telle est déjà une caution extrêmement importante.
Néanmoins, par votre ancienneté,
par notre ancienneté, par nos circuits de distribution, par l'image de la marque, c'est cette notion de qualité qui est toujours associée à nos produits. Néanmoins, pour conquérir de nouveaux consommateurs, à un moment donné, il faut leur dire, ils ont besoin d'avoir un label qui les rassure. Il y a un autre phénomène qui est la distribution. Les magasins de produits bio demandent à référencer des produits qui sont labellisés. Si vous n'avez pas de label, si vous voulez, pour eux, c'est un gage de qualité. Et ils ne veulent pas faire une exception pour nous par rapport à d'autres marques, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc c'est important pour nous d'avoir un label. Le choix, BDIH au départ, parce que c'est un label allemand et que notre structure allemande a fait le choix de les suivre dès l'origine. Donc voilà. Puis, au fil du développement de ce marché, qui a connu beaucoup de mouvances au fil des dernières années, les labels ont essayé de s'unifier, parce que pour une marque qui est présente dans plusieurs pays, et Véleda n'est pas la seule marque concernée, il est très difficile d'avoir un label dans un pays, un autre label dans un autre pays, qui ne regroupe pas forcément toujours la même chose. Ça a des impacts au niveau des packagings. Vous ne pouvez pas avoir des emballages avec 3 ou 4 labels différents dessus. Ça devient absolument illisible pour le consommateur. Et ensuite, il y a tout ce travail de certification derrière, d'audit de la part des gens qui vous fournissent le label. Donc ça démultiplie le travail et ça démultiplie les frais administratifs qui y sont liés. D'où ce choix.
Qu'est-ce que vous entendez par frais administratifs ? Qu'est-ce que ça engage vraiment d'avoir un label qui s'associe à une marque ?
Ah ben, ça engage beaucoup de choses. Ça engage de faire venir les certificateurs qui viennent tout contrôler. Il faut fournir des certificats. Enfin, c'est un travail sérieux, c'est un travail poussé. Et c'est très très lourd pour les personnes qui travaillent en production, en qualité, de gérer des labels.
Pour revenir justement sur les labels, pardon, je vous coupe une toute petite seconde, sur la partie consommateur, on est ici dans un salon Planète Durable où il y a justement plein de consommateurs qui viennent se renseigner. Est-ce que les gens ne sont pas un petit peu perdus face aux labels? Il y a un nouveau label qui s'appelle Cosmos qui vient d'arriver par exemple. Il y en a beaucoup des labels. Oui. Comment faire pour s'y retrouver pour le consommateur et pour distinguer le bien du...
Alors, je crois que notre position à nous, c'est de dire, à partir du moment où il y a un label, que ce soit le label Natru ou que ce soit le label anciennement Cosme Bio, nouvellement Cosmos, c'est un critère. C'est un critère qui permettra au consommateur de comprendre que dans ce produit-là, il aura la garantie qu'il n'y ait pas de substances chimiques, de substances de synthèse, qu'il y ait des substances majoritairement naturelles. Je crois que ça, c'est le principal pour le consommateur, de comprendre que c'est un critère qui lui garantira l'absence. On a beaucoup parlé des parabènes ces dernières années, donc il peut avoir confiance. Je dirais qu'ensuite, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu la guerre des labels, avec des différences, des différences techniques, des différences de calcul de pourcentage. La différence principale entre Cosmos et Natru, c'est le principe de l'eau, puisque ce qu'on appelle une eau florale, qui est une eau qui contient les résidus de la distillation des huiles essentielles, est acceptée dans le calcul des matières premières bio chez Cosmos et pas chez Natru. Donc ce sont après des discussions de spécialistes, c'est des fondamentaux. Et là, il y a des écarts entre les deux. Mais je crois que pour le consommateur, ce qu'il faut retenir, c'est quel que soit le label officiel qui figure sur un produit cosmétique, il aura déjà la garantie que c'est un produit sain avec des matières premières saines.
D'accord.
Le produit 100% bio, est-ce qu'il existe ?
Il peut exister.
Alors, est-ce qu'il est couvert par ce genre de label ? C'est pas un impératif. Quand vous dites qu'il peut exister, ça veut dire que tous les produits ne sont pas 100% bio chez Velleda, par exemple ?
Non, tous les produits ne sont pas 100%. Mais chez n'importe quelle marque, un
label... Ça garantit quoi ? Le label le plus sérieux que vous ayez choisi, il impose quoi comme critère ? Et jusqu'où on pousse, en fait ?
Alors, il impose... Alors, c'est important, cette notion d'un produit qui a un label bio n'est pas 100% bio. Pour plein de raisons différentes. Aujourd'hui, vous avez, par exemple, de l'eau. Au-delà de l'eau florale, l'eau pure, l'eau pure, ça ne peut pas être certifié bio, ce n'est pas possible. L'eau n'est pas bio par définition. Comme vous savez que dans les crèmes, ce sont des émulsions, vous avez à peu près, en fonction des produits, 40% d'eau dans un produit, vous enlevez déjà ça. Donc, mais déjà, si vous avez un produit qui est bio à 20, 40, 60%, c'est fantastique. Après, vous pouvez un produit 100% bio. Si vous prenez, par exemple, une huile pour le corps, ce sont des huiles végétales. Donc, c'est de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, de l'huile de tournesol, de l'huile de graines de rose musquée. Ça, ce sont des substances. Dans une huile, vous n'avez pas d'eau. C'est uniquement une phase grasse. Donc là, vous pouvez avoir de l'huile d'olive, de l'huile de sésame. Vous pouvez un produit 100% bio. Mais c'est loin d'être simple. Voilà. Nous... le choix que nous avons fait, c'est ces labels-là, si vous voulez, ils vous garantissent qu'il n'y a pas de substances issues de la pétrochimie, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de matière de synthèse. Voilà, notre choix à nous, c'est porté sur le label Natru parce qu'on l'estimait plus transparent.
Justement, vous êtes transparent, vous êtes pionnier aussi. Ça fait beaucoup de responsabilité pour une entreprise quand ça fait 90 ans qu'on fait des cosmétiques. Vous avez un peu comme rôle ou comme responsabilité d'essayer de tirer un petit peu les autres marques peut-être vers le haut ou en tout cas le secteur de la bio. Comment vous y prenez ? Est-ce que c'est une charge pour vous ? Est-ce qu'au contraire c'est moteur pour améliorer les produits et...
C'est moteur pour nous bien évidemment parce qu'on se sent... cette ancienneté-là et ces valeurs qui font cette marque nous donnent, si vous voulez, la position que nous avons aujourd'hui sur le marché, nous donnent une responsabilité également parce que nous respectons beaucoup nos consommateurs. Donc on estime qu'on se doit de faire des produits de qualité et de rester fidèle à toutes nos convictions depuis le départ. On essaye bien évidemment de défendre nos valeurs, de défendre le meilleur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons des critères que nous imposons à nous-mêmes qui vont au-delà de tous les labels qui existent. Donc quel que soit le label qu'on choisit, nous, on va forcément toujours au-delà de tout ça. Et parfois, c'est difficile d'arriver à faire passer ces messages-là. Je crois que la réponse, elle est avant tout chez le consommateur. Et c'est lui qui, en essayant le produit... fera la différence également entre une marque nouvellement arrivée et une marque à l'ancienneté reconnue.
Très bien. Une question pour Gilles Lemat, peut-être. Vous êtes responsable environnement, je le rappelle, de la marque Velleda. À mon sens, l'entreprise, de manière générale, a une forme de responsabilité dans la lutte contre le réchauffement climatique, avec les citoyens, avec les associations, avec l'État, plein de gens. Quel est l'engagement de Velleda dans cette lutte-là, ou comment est-ce que vous travaillez pour améliorer les choses ?
Alors, on peut dire qu'on a un engagement à plusieurs niveaux. Hein. D'abord, pour pouvoir engager des actions, il faut savoir un petit peu où sont nos impacts en matière de réchauffement climatique. Mm-hmm. Pour ça, on a fait un bilan carbone déjà en 2007 hein, sur les émissions de 2006, et puis on remet à jour chaque année, ce qui nous a permis de dégager les plus grands postes d'émissions de carbone. Alors, très clairement, il y a des postes qui sont traités à l'échelle du groupe Velleda, puisque bon, moi je travaille sur la partie française, mais on est en réseau. Hein. J'ai des collègues aussi dans les pays allemands et suisses, notamment, qui sont les principales filiales. Mais donc, tout ce qui est approvisionnement de matières premières ou packaging sont traités à l'échelle du groupe, hein, pour essayer de limiter les impacts dans le choix des matières, par exemple, ou dans les sources d'approvisionnement. À côté de ça, en France, on s'est rendu compte que le troisième poste était par exemple le transport des personnes. Donc là, on a mis en place un programme qu'on a appelé EcoSure, qui traite du transport des personnes, alors visant d'abord à supprimer les déplacements quand c'était possible, hein, vidéoconférence, téléphone, etc. Puis après, à choisir des transports alternatifs. Par exemple, pour venir à Paris, on est venu en train, on n'a pas pris l'avion, même si, effectivement, il y a encore une ligne avion entre Mulhouse et Paris.
Oui, vous êtes basé où ?
À côté de Mulhouse, à côté de Bâle.
Oh, ça va relativement vite, il y a un TGV là.
En train, 3 heures, voilà.
Bon, ça va, ouais, c'est raisonnable. Ça reste raisonnable. Quand est-ce que vous avez pris conscience de cette nécessité de faire des efforts pour l'environnement ? Est-ce que c'est inscrit dans votre marque ? Ou est-ce que, parce que là vous êtes en train en fait de balayer un petit peu votre politique de développement durable, mm-hmm. c'est quelque chose qui est né très récemment dans la conscience des entreprises, mm-hmm. Des chefs d'entreprise eux-mêmes, de faire des efforts. Ça date de quand cette prise de conscience chez Velleda ?
Je crois qu'on peut dire qu'elle est vraiment inscrite dans les gènes, parce que dès le départ, au niveau des ingrédients, il y a vraiment eu la volonté d'aller chercher les meilleurs ingrédients dans la nature, sans piller cette nature, mais en la respectant du mieux possible. Une des meilleures preuves que l'on peut apporter, c'est de voir que toutes les espèces végétales qu'on a été chercher en sauvage, hein, en culture sauvage, en récolte sauvage, on cherche à les acclimater dans nos propres jardins, puisque nous sommes aussi cultivateurs.
Hein, on pratique. Donnez-nous des exemples de plantes, par exemple, qui ont posé ce problème, c'est-à-dire qu'il a fallu les trouver.
Voilà.
Et les acclimater.
Alors, je ne sais pas tout en tête, mais bon, je crois que la grande gentiane ou la colchique ou la conite sont des plantes que, grâce à l'effort et à la technicité de nos jardiniers, ils ont réussi à les acclimater. C'est des plantes qu'on cherchait en sauvage et qu'aujourd'hui, on récolte chez nous.
On peut peut-être juste rajouter qu'on a, dans nos structures en Allemagne, un jardin de plantes médicinales qui est le plus grand d'Europe, où nous cultivons en biodynamie à peu près 260 espèces végétales différentes qui entrent dans la fabrication de nos produits.
Sur 90 ans, il s'est passé beaucoup de choses, j'imagine, dans la marque. On ne va pas pouvoir tout résumer ici. Aujourd'hui, en 2011, quels sont vos points d'amélioration ? Où est-ce que vous n'êtes pas content de vos produits ? Où est-ce que vous pensez que vous pouvez encore améliorer vos produits d'un point de vue environnemental, j'entends ?
Ah bah clairement, on en parlait encore tout à l'heure, je crois que sur les packagings, il y a toujours du travail à faire. Quoi. Je veux dire, aujourd'hui, les offres des fournisseurs, puisque ce n'est pas nous qui fabriquons nos packagings, on est quand même tributaire de ce que l'on peut nous offrir, sont quand même pas encore complètement satisfaisants. On peut dire que, notamment, que ce soit le recours au plastique, où là, on va tomber, on va dire, dans la ressource fossile, ou même le recours peut-être au verre, qui est une ressource minérale abondante, mais en même temps qui a un impact au niveau énergétique. Aucune solution n'est parfaite aujourd'hui, et c'est vrai que c'est le fruit de grandes réflexions chez Velleda, comme sans doute chez d'autres marques aussi, pour trouver des packagings moins impactants en termes d'environnement.
Est-ce que vous avez senti quand même que l'offre se développait ?
Non, bah, ça n'a pas l'air d'être concluant. Oui, mais c'est quand même assez timide, on va dire. Bon, alors c'est toujours pareil, les experts ont toujours tendance à être insatisfaits, à vouloir aller plus vite. Il y a des choses qui existent, bien sûr. On voit l'émergence des bioplastiques. Maintenant, il faut encore que ça puisse convenir à des produits comme les nôtres qui ne contiennent pas de conservateurs et qui donc ont un problème de conservation. On n'a que les huiles essentielles, on va dire, qui jouent ce rôle. Donc c'est pas facile, c'est pas simple.
Alors une des solutions consiste en général à créer des circuits courts. Est-ce que ça c'est applicable aux cosmétiques? J'ai pas l'impression. Hein.
C'est très compliqué. Aujourd'hui, nous travaillons quand même avec des distributeurs, avec toutes les officines de France. Donc, avoir des circuits courts, on est quand même obligé de garantir une date de péremption minimale pour nos consommateurs au bout, sinon ça fonctionne pas.
Les dates de péremption s'appliquent sur quel genre de produits ?
Sur tous les produits.
Tous les produits, tous les produits. Absolument tous. Il y en a qui... La plus courte, par exemple, c'est quoi ?
La plus courte, elle doit être de 18 mois, à peu près.
Ça va, ça laisse de la marge.
Oui, on évite quand même... la plupart du temps, c'est 24 ou 36 mois. Parce que 18 mois, c'est quand même assez court.
Moi, je voudrais revenir sur vos efforts en matière de développement durable dans l'entreprise. Vous disiez donc tout à l'heure que c'était inscrit un peu dans les gènes d'aller déjà chercher les matières premières les plus saines possibles. Vous avez été les chercher d'abord dans la nature. Vous les avez cultivées en biodynamie, c'est-à-dire sans engrais, avec des méthodes très particulières. On ne va pas revenir dessus. Quels sont les autres axes sur lesquels vous développez ? Alors, vous parliez du transport de vos employés, c'est ça ?
Oui.
Faire attention de ne pas trop vous déplacer, donc ça en fait partie. Oui. Vous avez mis en place des visioconférences, donc vous faites appel aux nouvelles technologies finalement.
Tout à fait.
Et quels sont les autres axes sur lesquels vous êtes engagé, sur lesquels vous vous engagez de la recherche aussi ?
Alors, un axe très important, c'est au niveau de nos bâtiments et de l'utilisation énergétique. En Allemagne, ils avaient déjà construit en 2002, si je me souviens bien, un bâtiment qui était réfrigéré par puits canadiens. Donc, c'était quand même assez ancien pour un bâtiment tertiaire important. Donc nos nouveaux bâtiments, nous sommes en train de construire, font appel aussi à des technologies récentes et qui sont économes en énergie. À titre d'exemple, on a mis en service l'année dernière une crèche. Alors, je prends cet exemple-là parce qu'il regroupe un petit peu tous les piliers du développement durable, puisque c'est aussi, on va dire, un aspect social important que de pouvoir aider les collaboratrices et aussi les papas, bien entendu, à garder leurs enfants puis à les avoir pas très loin de l'entreprise.
Elle est opérationnelle, cette crèche ?
Elle est opérationnelle. Elle est ouverte depuis le 26 août. Donc, c'est Véléda qui l'a montée et qui a porté le projet. Et elle est d'architecture bioclimatique, construction en bois, triple vitrage, basse énergie. Voilà.
Ça, c'était une demande de vos employés ou est-ce que c'est vous qui l'avez détecté ? Pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre cette crèche en place ?
Parce que nous avons une population à forte dominante féminine. Nous sommes à peu près 400 personnes sur le site et beaucoup de femmes. Donc forcément, à un moment donné, cette question-là, elle se pose. Et il y a eu toute une démarche de consultation du personnel par le biais de questionnaires. Et les résultats ont été très concluants. Et voilà, le projet a vu le jour. Et c'est un projet magnifique pour l'ensemble de l'entreprise, en fait.
Ça évite peut-être des déplacements aussi, de galoper à droite à gauche, oui. D'arriver à l'heure au travail. Non, c'est ça.
Oui, et puis c'est un confort pour plein de femmes qui ont des enfants, de les déposer le matin, de les récupérer le soir. Et quand on voit en plus toute la démarche qu'il y a derrière, tout ce que Gilles a pu expliquer sur la conception des bâtiments, sur l'approche pédagogique qui est pratiquée là-bas, c'est vraiment un projet super sympa.
Alors vous disiez qu'il y avait plein de femmes dans votre entreprise. Moi, je vais vous faire un scoop, je suis un homme. Il n'y a pas beaucoup de cosmétiques hommes chez Véléda ?
Il y en a, quelques-uns. Alors, il y a une crème à raser qui marche assez bien, qui est un produit assez fantastique. Oui, évidemment.
C'est pas très radiophonique, mais je suis mal rasée.
On a une crème hydratante pour hommes également. On a un baume après rasage. Voilà, il y a une lotion après rasage. Donc, on a 4 produits. Et après, on a beaucoup de produits mixtes. Par exemple, si vous êtes sportif, l'huile pour massage à l'arnica, c'est vraiment une référence absolument fantastique dans le milieu du sport. Il y a tous les produits pour la douche qui sont mixtes. Donc, on a de quoi vous satisfaire, messieurs.
Les hommes s'intéressent à la cosmétique bio ?
Les hommes s'intéressent à la cosmétique bio, oui, mais certainement moins que les femmes.
Toujours ? C'est pas une tendance en évolution ?
Non. On a beaucoup parlé, ça fait à peu près 10 ans qu'on parle de le boom de la cosmétique pour hommes. Ça reste quand même globalement quelque chose d'assez confidentiel sur le marché total de la cosmétique. Il y a du potentiel, c'est sûr, mais il y a encore beaucoup de... C'est un marché difficile à conquérir quand même.
Vous avez fait des essais ?
Si vous voulez, nous... notre cible prioritaire, ce ne sont pas les hommes. Si vous voulez, on a une marque très familiale. On est une marque très familiale. Et ce qu'on observe, c'est que les gens qui à un moment donné, basculent sur Velleda, basculent pour leur famille. Donc nous, on essaye beaucoup de toucher les jeunes familles par le biais des produits pour bébés, parce qu'on considère que c'est fondamental, dès l'origine de la vie finalement, d'utiliser des produits sains et qui ne contiennent pas de substances pouvant être pas totalement inoffensives pour la peau en fait.
Très bien.
Mais écoutez, on va terminer sur ces notes. J'avais juste une petite question. Allez-y. Quel est le produit qui marche le mieux chez Velleda, c'est quoi ?
L'huile de massage à l'arnica.
C'est ça. C'est pour les sportifs, ça sert à quoi globalement ?
Ça sert à éviter les courbatures, ça sert à la préparation et à la récupération musculaire, donc avant l'activité sportive et après l'activité sportive. C'est un produit qui existe depuis 1939 et qui vraiment ne cesse de conquérir de nouvelles cibles de personnes et vraiment c'est une valeur sûre chez nous.
Comment on se procure vos produits ?
Dans toutes les pharmacies, parapharmacie, magasin bio, ainsi que dans notre propre structure à Paris, qui est l'espace Velleda, où nous pratiquons également des massages, qui est avenue Franklin Roosevelt, dans le 8e.
On peut se faire masser chez vous ?
Vous pouvez vous faire masser chez nous, allez-y, vous aurez un accueil fantastique.
Vous n'avez pas de boutique internet ?
Non.
Ah, est-ce que c'est quelque chose qui va venir ?
Pas dans l'immédiat.
Pas dans l'immédiat, pourquoi ?
Parce que nous sommes une structure, nous ne savons pas faire de la vente comme ça au détail. Nous faisons de la vente dans un certain volume vers nos pharmacies, nos distributeurs. Et faire de la vente comme ça au détail à l'unité, pour l'instant, on ne sait pas faire.
D'accord, donc il faut se déplacer pour venir chercher vos produits.
C'est ça.
Je vous remercie, Françoise Kessler. Je rappelle que vous êtes toujours directrice du marketing de Velleda. Et à vos côtés, Gilles Lamatte, responsable environnement de la marque Velleda. Et avec nous pour ce débat, Adrien Lepage, pour Marcel Green.